Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse ce vendredi 7 août 2009. Trois thèmes ont été retenus pour vous ce soir, à savoir rencontre Joseph Stadi la folle qu'a gagné hier jeudi à Goma au Nord Kivu. Et puis nous parlerons de ce face-à-face Adolf Mouzito et président des assemblées provinciales lundi dernier à Kinshasa. Le premier ministre invite les assemblées provinciales à jouer pleinement leur rôle de contrôle sur les gouvernements provinciaux. Et dans notre dernier thème, nous aborderons les sujets sur la mise à la retraite et la révocation pour corruption de plusieurs cadres et agents des différents ministères de l'État, c'est-à-dire des fonctionnaires. Trois confrères sont avec moi, comme d'habitude, dans cette émission pour en parler. Il s'agit de Ambroise Mamba, il est journaliste à Congo Web Télévision, une chaîne de télévision privée émettant depuis Kinshasa. Albert Romba, journaliste à Tropicana FM, une radio privée qui émet aussi depuis Kinshasa. Et Roger Ebolinda, correspondant de la RTGA à Kindu, dans la province du Maniema. Comme d'habitude, commençons notre tribune de ce soir par la revue de presse pour voir comment les journaux parus à Kinshasa ont traité les trois thèmes cités ci-haut. Alain Roux pour le journal des journaux.
Bonsoir. Par rapport au sujet retenu pour cette revue de presse, selon l'Observateur, le Rwanda ne peut plus permettre à Nkunda de déstabiliser la RDC. À en croire ce journal, sur invitation du président Joseph Kabila, le président rwandais Paul Kagame a effectué hier jeudi 6 août 2009 une visite officielle d'un jour à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Abordant aussi cette rencontre d'hier entre les présidents des deux pays, la référence plus annonce qu'au cours du sommet hier à la frontière entre la RDC et le Rwanda, Kabila et Kagame ont décidé la neutralisation des FDLR et du CNDP. Rétrocession des 40% aux provinces. Les présidents de l'Assemblée provinciale en difficulté devant Mouzito, c'est la manchette du journal Le Potentiel ce mercredi. Selon le journal, le premier ministre Adolf Mouzito s'est entretenu ce mardi 4 août à son cabinet de travail avec les présidents des assemblées provinciales sur la question de la rétrocession de 40% de recettes allouées aux provinces, telle que l'indique la Constitution. Le quotidien précise que le premier ministre, qui était entouré des ministres de l'économie, du budget et de quelques experts de la primature, a d'emblée présenté la contribution de chaque province au budget de l'État. Dans un tout autre registre, le journal Le Phare a planché jeudi dernier sur des récentes nominations des secrétaires généraux de la fonction publique. À ce sujet, le journal interpelle le ministre Boutoro de la fonction publique, qui a la responsabilité d'affecter les secrétaires récemment nominés, chacun selon ses compétences. C'est la fin de cette revue de presse.
Merci Alain Hung pour cette revue de presse. Albert Romba, on va placer juste un petit mot par rapport à cette revue de presse que nous venons de suivre.
Oui, pas de commentaires, c'est quand même le point important de la semaine, sauf que peut-être on n'a pas fait allusion à la prolongation de la révision du fichier électoral qui était aussi un problème assez important, et aussi le dossier de M. Jean-Pierre Mbemba et les hésitations des pays qui devraient l'accueillir pour la liberté provisoire. À part ça, tout a été vraiment retracé dans les différents journaux.
Ambroise Mamba.
Pas un commentaire. Hein. Je pense que je vais aborder dans le même sens que Albert. Effectivement, on a oublié la situation de Jean-Pierre Mbemba.
Merci Ambroise Mamba. Roger Bolinda, vous intervenez à partir de Kindu dans la province du Maniema. Vous avez un petit commentaire à émettre par rapport à cette revue de presse que nous venons de suivre.
Oui, j'avance dans le même sens, sauf que le dossier Mbemba, on n'a pas fait allusion, et pourtant c'est un dossier très complexe, que tout le Congo est en train de suivre. Dans les cas contraires, tout a été passé en revue de presse.
Merci Roger Ebolinda, vous êtes correspondant de la RTG à Kindu dans la province du Maniema. Premier thème de notre tribune de la presse de ce soir, rencontre Joseph Kabila de la RDC et Paul Kagame du Rwanda à Goma au Nord Kivu. Un sommet RDC-Rwanda a eu lieu hier, jeudi à Goma au Nord Kivu. Joseph Kabila et Paul Kagame qualifient leur rencontre d'un pas de géant et décident de construire ensemble un avenir meilleur. Le Rwanda ne permettra à personne ni à aucune organisation de déstabiliser le Congo. De son côté, la RDC rassure d'éradiquer le phénomène FDLR avec les opérations militaires en cours. C'est l'essentiel du point de presse conjoint tenu par les deux chefs d'État dans la zone neutre entre Goma et Gisenyi. Jingala pour les détails.
Le Rwanda affirme avec fermeté qu'en aucune façon, ni le Rwanda, ni le CNDP ne leur serait permis utiliserait des activités qui déstabiliseraient la paix dans la zone diplomatique du Congo ou déstabiliseraient la région dans son ensemble.
Un journaliste rwandais a voulu avoir des assurances de la part de la RDC à propos des FDLR et ex-FAR dont il croit que certains auraient même été enrôlés dans les forces armées nationales, les FARDC. Réponse de Joseph Kabila.
We're carrying out operations against the FDLR.
Les FDLR sont des criminels bien connus et connus de tout le monde. Que la question et l'objectif de leur éradication sont justement en cours du fait des opérations en cours. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne pouvons pas en même temps user de force en vue de leur éradication et en même temps organiser une sorte de jeu, une sorte d'arrangement pour ne pas mener à bout l'objectif d'éradication.
Les questions du développement n'ont pas été négligées lors de ce sommet de Goma, a affirmé Raymond Tshibanda, ministre de la coopération régionale de la RDC, lisant les communiqués conjoints des travaux qui se sont déroulés à l'hôtel IUC. Goma, Jules Ngala, Radio Okapi.
Merci Jules Ngala pour ce reportage. Ambroise Mamba, journaliste à Congo Web Télévision, une chaîne de télévision privée émettant depuis Kinshasa. Comment analysez-vous cette rencontre entre Paul Kagame et Joseph Kabila 10 ans après la rupture des relations diplomatiques?
Effectivement, moi je trouve que c'est un succès diplomatique qui a fait qu'aujourd'hui ces deux chefs d'État parviennent à se parler. Par rapport même au contenu de cet état-tête, moi je trouve qu'ils peut-être ne sont pas arrivés à examiner les problèmes de fond qui ont fait que les relations entre les deux pays puissent être brouillés, justement.
Et c'est quoi ces problèmes de fond pour
notamment,
vous
notamment, il y a un problème au niveau des intérêts économiques, au niveau de l'exploitation des richesses qui partagent la frontière commune RDC-Rwanda. Est-ce qu'ils ont parlé de ce problème ou seulement ils ont cherché à voiler la face au niveau de l'opinion nationale ou internationale pour qu'on se rende aujourd'hui compte que vraiment les chefs d'État sont parvenus à se parler? Mais ce problème demeure. Est-ce qu'ils ont abordé ce problème étant donné que autrefois le président français Nicolas Sarkozy avait tenu des propos invitant la République démocratique du Congo à pouvoir partager l'exploitation de ces ressources minières que partage la frontière commune avec le Rwanda, avec le Rwanda? Est-ce qu'ils ont abordé ce point? Est-ce qu'ils ont abordé à fond les problèmes du général déchu Laurent Kunda, dont l'extradition en RDC tarde à venir? Ce sont là les questions aujourd'hui que la population voudrait avoir un peu plus d'éclaircissement. Puisque par rapport à Laurent Kunda, par exemple, moi je considère pour ma part que Laurent Kunda risque d'être considéré comme un pion de réserve pour le Rwanda. Un pion de réserve pour le Rwanda. Le Rwanda qui a estimé, par exemple, que l'FDLR constituait une menace contre son régime. Aujourd'hui, avec les concours des autorités de la RDC, on est parvenu quand même à faire un grand travail par rapport à la neutralisation de l'FDLR. Mais est-ce que Laurent Kunda sera extradé, oui ou non, au Congo? Si c'est non, si la question n'a pas été bien abordée, peut-être que Laurent Kunda risque d'être considéré comme un pion de réserve pour le Rwanda pour faire du mal au Congo, si les intérêts du Rwanda, si mon malade, ne sont plus respectés. Voilà pourquoi j'ai dit, est-ce qu'ils ont abordé les problèmes de fond? Parce que d'aucuns n'ont cessé de décrier que la guerre à l'est du pays, c'était une guerre économique et il y avait des intérêts économiques du Rwanda par rapport à ça. Moi, je voudrais qu'on aborde cette question essentiellement en profondeur. Est-ce que finalement, ils ont accepté d'aplanir les divergences au sujet de l'exploitation des ressources?
Mais vous saluez quand même cette rencontre?
Je salue, je dis que c'est un souci diplomatique. Et bien sûr, tout ça concourt à la paix justement dans la région de Grand Lac pour que ça permette le développement de la région.
Albert Romba, journaliste à Tropicana FM, une radio privée qui est née à Kinshasa. Est-ce que vous pensez aussi comme Ambroise Mamba que les questions des fonds n'ont pas été abordées au cours de cette rencontre entre les deux chefs d'État?
Et bien sûr. Mais tout à souligner aussi qu'il y a deux questions essentielles il y a l'aspect essentiel de cette rencontre qui était une façon d'abord de se dire, de se confesser. Monsieur Kagame a dit, fini, je ne peux plus ennuyer le Congo. Et Monsieur Joseph Kabila a dit, à mon tour, je ne peux plus ennuyer le Rwanda. Donc, c'était une façon de se confesser entre les deux chefs d'État, ce qui peut-être permet un nouveau démarrage dans les relations entre la RDC et le Rwanda. Et notre problème, c'était le passage de Mme Clinton au Nord Kivu et à RDC dans la région pour les intérêts économiques. Il fallait quand même faire quelques gestes pour démontrer aussi la bonne foi que les relations entre les deux pays, qui, sur les faits, est mal perçue à travers l'opinion internationale.
Et donc, vous liez cette rencontre à l'arrivée de la secrétaire d'État américaine?
Oui, ça a vraiment un lien direct parce qu'il pouvait le faire. Kagame n'a jamais osé fouler le sol congolais depuis tous ces temps, malgré toutes les rencontres qu'il devait avoir avec le chef de l'État. Mais cette fois-ci, il est venu d'une façon officielle, même s'il a fait quelques centimètres seulement à RDC. Nous préférons qu'avant que le président Kabila aille à Kigali, qu'il vienne à Kinshasa, où les Congolais seront vraiment réjouis de le voir. Pour ce qui est de problèmes économiques, j'espère que, comme Ambroise vient de le dire, il devait et revoir le problème d'abord sur la fraude qui existe sur les matières premières exploitées dans le nord et sud Kivu. Comment ces matières, le bois, peut traverser la frontière et régulariser ça. Et un autre aspect aussi, c'est l'exploitation du gaz méthane sur les lacs Kivu. Le Rwanda a déjà commencé cette exploitation, mais la RDC tarde à venir. Parce qu'il faut qu'ils se mettent d'accord sur l'exploitation commune de ce gaz. Donc ça fait aussi un aspect économique qui devait être cassé. Mais au moins, cette concession permettra peut-être à ce que les relations deviennent un peu stables, comme dans les vieux temps.
Roger Bolinda, correspondant de la RTG à Kindu, dans la province de Maniema. Comment avez-vous accueilli cette rencontre entre les deux chefs d'État, donc Joseph Kabila et Paul Kagame du Rwanda?
Oui, merci. Écoutez, la rencontre historique de ce jeudi à l'hôtel ici entre le chef d'État congolais Joseph Kabila Kabange et son homologue rwandais Paul Kagame. Et ce qui a attiré mon attention particulière, c'est le passage peu contenu dans le texte élaboré par ce pays, repris dans une chaîne nationale, je cite, « Le Rwanda ne permettra à personne ni à aucune organisation de déstabiliser la RDC Congo. » Ça, des citations. Ici, à qui j'ai fait des causes avec les amis, on a partagé. Nous avons pris acte de cette déclaration du président Paul Kagame et prenons en témoin la communauté internationale de cet engagement pris par le Rwanda à travers son chef de l'État. Pour le peuple congolais et du Maniema en particulier, nous sommes en train de voir que le Congo commence à refaire ses chances pour récupérer sa place sur le circuit international et aussi dans les concerts des nations où longtemps il était absent. Cette absence de la diplomatie mettait à mal de la République démocratique du Congo. Nous devons connaître quand même que la guerre qui faisait le Rwanda à la RDC du Congo n'était pas tellement la guerre rwando-congolaise.
C'était
la mémoire de la communauté internationale. Et aussi, quand on veut parler du problème de fond, ça c'est très important. Vous savez qu'à un moment donné, à Kisangani, les Rwandais et les Ougandais sont allés se battre là-bas. Mais ce qui est vrai, il ne faudrait pas que la rencontre de Goum arrive à distraire le peuple congolais. Parce que c'est mieux que dans les années 2000-2001, que je venais de parler tout de suite là, quand les Rwandais et les Ougandais se sont battus à Dessin, à Kisangani, il y a eu des dégâts humains incommensurables. L'Ouganda, curieusement, avait accepté sans problème le principe de réparation au préjudice causé au peuple congolais. Chose que le Rwanda n'a jamais accepté. Et ensuite, il y a le problème de Laurent Nkunda. Laurent Nkunda, la République voisine de Rwanda, a accepté d'examiner d'abord les dossiers et d'envisager son extradition. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce dossier est resté une lettre morte. C'est vrai ça.
Merci, Roger Bolinda. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes aussi d'avis que cette rencontre est liée à l'arrivée de la secrétaire d'État américaine?
Non, je ne pense pas. Peut-être c'est une bonne coïncidence, et la volonté des deux hommes d'État, ça nous devons reconnaître, parce que bien avant, il y a eu le déploiement des ambassadeurs. Et aussi, nous devons citer nommément le ministre Tambo Mwamba qui s'est investi pour les rapprochements davantage entre les deux États. Ça, nous devons être reconnaissants. À dire que c'est parce que le secrétaire d'État est en Afrique, je ne pense pas.
Vous pensez que c'est une coïncidence? Merci. On parle Mwamba.
Je voulais faire réagir par rapport à ce qu'a dit Albert. Il a parlé de la concession. Les deux chefs d'État sont arrivés à se confesser. Paul Kagame a dit qu'il ne fera plus du mal à la RDC. Joseph Kabila, à son tour, l'a dit la même chose, mais à mon avis, Joseph Kabila ne pouvait pas dire qu'il va plus faire du mal au Rwanda, parce qu'à mon avis, Joseph Kabila n'a jamais fait du mal au Rwanda.
Joseph Kabila a dit qu'il va éradiquer le phénomène FDLR.
Effectivement, éradiquer le phénomène FDLR, justement, peut-être pour faire plaisir au Rwanda qui a estimé que ce sont les FDLR qui constituent une menace par rapport à son régime. Voilà pourquoi, effectivement, le Congo aussi a estimé que la prison des FDLR, c'est une menace par rapport à la sécurité dans l'est du pays. Ça, je suis d'accord. Mais par rapport à la confession, je voudrais dire seulement qu'il n'appartenait pas à Joseph Kabila de pouvoir se confesser pour dire qu'il ne va plus faire du mal. Non, je réponds les propres termes de
Joseph Kabila. C'est son point de vue.
Pourquoi je dis qu'il appartient seulement à seul Paul Kagame de se confesser pour dire qu'il va plus faire du mal à la RDC. Mais pour revenir à ce qu'il a dit, moi je ne voudrais pas qu'il y ait seulement des
simples déclarations. Mais c'est quoi ce mal que Paul Kagame a fait à la RDC?
Effectivement, le mal, justement, d'abord l'agression depuis 1998, il a agressé le Congo, après l'agression, on a commencé à exploiter, il a brandi sa supériorité numérique, sa supériorité militaire par rapport à la RDC, et voilà pourquoi même on a tendu la main à Paul Kagame, il n'a pas passé pour mener la première opération qui a concouru à la neutralisation des FDLR, on a tendu la main à Paul Kagame pour qu'il fasse venir ses troupes au niveau du Congo. C'est ce qui prouve qu'aujourd'hui, il est un peu sûr de sa supériorité militaire par rapport à la RDC, et aujourd'hui, il a fait du mal, autant du mal à la RDC.
Mais alors, le Rwanda pense aussi que la RDC entretient le phénomène FDLR.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, c'est un faux fuyant pour le Rwanda, pour justifier justement son agression. Mais pour revenir à ce qu'il a dit tout à l'heure, qui sont arrivés, les Rwandais a dit qu'il ne va plus permettre au général Vichy Laurent Kunda et au CNDP de pouvoir faire du mal au Congo. Mais ça, je ne suis pas encore tout à fait d'accord avec ces déclarations, parce que je me souviens, je me rappelle à l'époque du ministre Charles Murigande, lorsqu'il était encore ministre des Affaires étrangères du Rwanda, il était venu au Congo, à l'époque également pour le Congo de Moussa Nyamwisi. Il avait dit qu'il nous appartient aujourd'hui de ne plus soutenir ces groupes armés illégaux pour entretenir l'insécurité dans le pays. Mais ce qui n'a pas été fait. Alors aujourd'hui, si Paul Kagame, il s'agit d'une confession des cœurs ou des paroles seulement.
Mais par rapport à la question de l'air, il y a un journaliste rwandais qui a posé cette question à Joseph Kabila, c'est en fait qu'il a répondu par rapport à ce phénomène FDLR.
Effectivement, j'ai...
Donc pour eux, la RDC a entêté un peu ce phénomène FDLR.
Pour eux, oui, effectivement, parce que les FDLR ont été imposés à la RDC, vous le savez, par la communauté internationale. Aujourd'hui, Joseph Kabila qui a compris que les FDLR constituaient une menace par rapport à la sécurité de son pays, il a compris qu'il fallait effectivement neutraliser ces forces irrégulières. Je pense qu'à ce niveau, bien sûr, l'engagement de Joseph Kabila tient debout. Mais par rapport à l'engagement de Paul Kagame, est-ce que ce n'est pas une confession des paroles pour voiler la face de l'opinion congolaise afin de brandir ainsi de suite sa sécurité par rapport à sa sécurité militaire par rapport à la RDC?
Albert Omba, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, parler de supériorité militaire, je ne crois pas. Parce que c'était le problème de confiance entre les deux chefs d'État. Vous savez que le Rwanda, qui avait peur depuis 1994, depuis que plus d'un million de Rwandais sont venus à RDC, il y avait d'abord le problème d'Interahamwe et l'ex-Tsar qui posait de sérieux problèmes. Alors, M. Kagame s'est allié à l'époque avec Laurent Désiré Kabila et la FDEL pour repousser le plus loin possible les ex-Tsar et les Interahamwe. Ils sont allés jusqu'au Gabon. Mais, malgré cela, la menace persistait pour Kagame. C'est pourquoi il y a eu la deuxième opération en 1998 avec le RCD, qui a été appuyé par Kagame, pour repousser encore pour la deuxième fois. Mais le problème n'était toujours pas fini. Maintenant que la troisième opération est au Modja Wetu, où l'armée patriotique rwandaise est venue sur le sol congolais constater ces dégâts, c'est déjà un grand pas. C'est pour Joseph Kabila, c'est une façon de dire, voilà, vous m'accusez d'entretenir ceci, voilà pour moi.
Mais ce n'est pas une confession.
S'il vous plaît, laissez-le parler.
C'est une confession, c'est quand on vous accuse que vous avez tué. Vous dites, non, moi je n'ai pas tué, voilà la preuve, pour le moment, entrez dans ma maison, fouillez partout, vous ne trouverez rien, ou je n'ai rien volé. C'est une confession.
Merci Albert Omba. Roger Bolinda, comment peut-on analyser les actuels des relations entre la RDC et le Rwanda? D'abord, c'était la nomination des ambassadeurs dans les deux pays, ensuite la rencontre des deux chefs d'État. Comment on peut analyser les relations entre les deux pays?
Nous sommes en train d'exhorter d'une façon ou d'une autre aux deux chefs d'État de continuer de poursuivre cette bonne volonté pour l'intérêt de deux peuples. Jadis, frères Rwanda et Congo. Et vous savez que, madame, quand on parle du dossier FDLR, ça c'est un faux fuyant, comme disait mon confrère là. Il y a eu l'arrivée de l'AFDL, l'AFDL a fait ce qu'il avait fait, et ensuite c'est l'arrivée du FCD. Mais au jour d'aujourd'hui, les FDLR, pourquoi est-ce que la communauté internationale ne doit pas s'interposer pour organiser une conférence nationale rwandaise où les deux antagonistes vont se retrouver autour d'une table ou sur table rase? Je pense que la communauté internationale doit absolument nous appuyer à travers des négociations pacifiques et par le biais de la République rwandaise pour qu'on arrive à trouver un consensus et une formule propre là où les fils et filles de la République rwandaise vont se retrouver pour parler le même langage.
On va conclure avec vous en bas en bas pour le premier thème. Est-ce que vous pensez que les deux pays sont sur la bonne voie pour le rétablissement des relations diplomatiques?
Effectivement, ils sont sur la bonne voie, mais il reste un petit virus, c'est Laurent Kunda.
Deuxième thème de notre débat de ce soir, face à face, Sados Mouzito est président des assemblées provinciales. Lundi dernier à Kinshasa, le premier ministre invite les assemblées provinciales à jouer pleinement leur rôle de contrôle sur les gouvernements provinciaux. Sados Mouzito, qui a reçu les présidents des assemblées provinciales, a d'abord discuté avec eux du paiement des 2 mois d'arriérés et de rétrocession, des fonds que les assemblées provinciales réclament au gouvernement central. Il s'agit des arriérés de mois de juin et juillet 2009. Et c'est justement pour ça que le Premier ministre a rappelé à ses hôtes qu'en jouant leur rôle, ils pourraient moins dépendre du pouvoir central. On écoute le Premier ministre Sados Mouzito dans cet extrait recueilli sur la radio-télévision nationale par Alain Rung.
Vous avez des recettes propres, je crois 5 ou 6, donc c'est des recettes importantes sur lesquelles vous devez exiger des grands exécutifs, une grande mobilisation pour que vous ne soyez pas dépendant du gouvernement central. De manière générale, vous ne jouez pas, me semble-t-il, j'espère me tromper pour vous, vous ne jouez pas le rôle de contrôle. Nous, on subissons beaucoup de pression de nos assemblées, c'est des bonnes guerres, elles font pression, et c'est avec ça que nous mobilisons plus ou moins les 100% des ressources inscrites comme assignation à notre charge de la part de nos députés. Ils contrôlent, ils nous scient les côtes, on ne s'en plaint pas. Je crois que c'est grâce à eux que nous alignons les quelques performances que vous constatez et sur lesquelles d'ailleurs nous faisons des rétrocessions sur vous. Donc j'ai l'impression que là, ça ne marche pas sur vous, au lieu de faire pression sur l'exécutif, vous ne prenez pas suffisamment vos prérogatives, vous venez tout de suite au gouvernement central en disant vous n'avez pas l'idée. La quotité, ça que nous comprenons. Mais nous voulons partager avec vous une idée qui consiste à vous encourager à prendre vos prérogatives pour avoir un ascendant en matière budgétaire et légale sur vos exécutifs.
Signalons qu'au cours de cette réunion, les présidents des assemblées provinciales et le premier ministre ont par la même occasion examiné la question de savoir s'il faudra tenir compte de 11 ou 28 provinces du Congo dans l'élaboration du budget 2010. Albert Rumba, journaliste à Tropicana FM, pourquoi, selon vous, cette interpellation du premier ministre Sados Mouzito aux assemblées provinciales?
Oui, d'une manière, c'est une interpellation, d'accord, mais à mon avis, c'est un faux fuyard. Parce que si les assemblées provinciales ont des difficultés aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement central n'a pas respecté cet engagement qui consistait à rétrocéder 40% de ce qu'on devait avoir le gouvernement provincial. Et c'est dans ces rétrocessions qui est le gros du montant qui devait permettre au gouvernement provincial de gérer et de résoudre le problème. Vous avez dit, la semaine passée, on a évoqué le problème du Nord-Kivu, par exemple, où ils avaient 4% seulement. 4 à 5% qu'ils ont reçu comme rétrocession. Ça fait plus de 2 mois qu'ils n'ont rien reçu du gouvernement. Comment ils vont fonctionner? Je crois que le Premier ministre devait faire tout pour d'abord rétrocéder aux assemblées provinciales, aux gouvernements provinciaux.
Mais le gouvernement central rétrocède, c'est qu'il peut.
4%, c'est signifiant. Comment ils vont fonctionner? On a fait le tour des différentes provinces. C'est pratiquement rien. Les recettes dont ils parlent ici, ce sont des recettes minables par rapport aux recettes, parce que tout ce qui est comme les recettes, ça vient de province. Vous prenez le Bas-Congo. Toutes les recettes qui sont réalisées par l'OFIDA, l'OCC, tout ça, ça vient de quelle province? C'est la province du Bas-Congo ou d'aller au Katanga. C'est la même chose. Ce sont les provinces qui, s'ils pouvaient aujourd'hui dire, nous reprenons ça à la source, ça posera des problèmes sérieux. Et le gouvernement provincial sont sérieux, sont respectueux. Ils ont laissé la latitude au gouvernement d'avoir toutes les recettes nationales pour qu'à l'heure tout, on puisse les rétrocéder. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait.
Et vous pensez que les assemblées provinciales font leur travail, mais seulement ils n'ont pas des moyens, c'est ça?
Les assemblées provinciales ont d'abord, comme ils ne sont pas payés, il y a d'autres assemblées qui ont 7, 8 mois d'impayement. Comment un député va à...
Quelle assemblée provinciale, par exemple?
Je prends, par exemple, soit l'Équateur, et un autre, soit au Kassai, 3 ou 4 mois, je n'ai pas de président. Mais ces assemblées provinciales...
Mais ces assemblées qui ont 7 mois d'affilée, ils ne se plaignent pas. Ils ne disent rien, mais comment le gouvernement central saura que ces assemblées ont des problèmes?
Non, vous verrez que dans chaque assemblée provinciale, ça dépend de la quantité de membres de cette assemblée qui sont de l'opposition, qui peuvent interpeller. Tous les restes sont de la majorité. Et quand on interpelle, nous avons suivi plusieurs députés provinciaux qui se sont plaints. À Bandundu, on peut prendre le cas au Kassai occidental et ailleurs aussi. Au Katanga, dernièrement, le président de l'assemblée provinciale de Katanga est venu ici pour réclamer que, malgré tout ce que le Katanga fournit comme effort pour produire, et voilà, le rétrocède de quoi 16% seulement. Non, ça ne peut pas aller. Donc, c'est un problème où le gouvernement doit prendre ses responsabilités et essayer de rétrocéder avant, parce qu'il y a des charges aussi qui ne sont pas encore prises en considération dans le gouvernement provincial. Mais si le gouvernement central rétrocède, c'est qu'il doit même plus de la moitié, mais le gouvernement provincial va fonctionner.
Merci Albert Rumba. Ambroise Mamba, est-ce que vous pensez que c'est parce que le gouvernement central ne rétrocède pas aux provinces que les assemblées provinciales ne jouent pas ou les travaux ne fonctionnent pas bien?
Non, pas du tout. Moi, le problème, ce n'est pas au niveau de la rétrocession. Vous parlez de la rétrocession. Moi, je voudrais vous surprendre avec la retenue à la source de 40% qui est plutôt pourtant constitutionnelle.
Ouais.
Puisque aujourd'hui, le gouvernement est incapable de pouvoir activer ces mécanismes constitutionnels de retenue à la source de 40%. Aujourd'hui, vous parlez de 2 mois d'arriéré des rétrocessions déjà. Donc, on en est déjà à 2 mois d'arriéré des rétrocessions. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement est incapable de rétrocéder, mais il fallait qu'on active tout simplement le mécanisme de retenue à la source des 40% des recettes. Comme ça, ça va permettre aux provinces de pouvoir s'autofinancer pour fonctionner normalement avec la mise en œuvre effective du processus de décentralisation. Moi, je voudrais qu'on active cela. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau du Katanga, le gouverneur Moïse Katumbu qui a pris de manière peut-être unilatérale une décision de pouvoir retenir déjà pour le revenu du secteur minier 40% à la source. Alors tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il comprend que si ça arrive au niveau national, ça ne sera pas rétrocédé dans les délais. Voilà pourquoi il y a des remous. Aujourd'hui, Adolphe Moujitou qui a réuni les assemblées provinciales pour leur demander, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème d'élaboration du budget 2010, il veut qu'effectivement, il puisse avoir mobilisation des recettes pour qu'il puisse faire un succès à ces niveaux. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on active le mécanisme de retenue à la source.
Et vous pensez que les provinces, la solution pour les provinces, c'est la retenue à la source?
Effectivement, parce qu'il y avait même une caisse de rétrocession qui a été prévue par la Constitution pour combler les déficits à ces niveaux. Moi, je voudrais qu'on puisse activer ces de péréquation pour résoudre tous ces problèmes.
Roger Bolinda, vous intervenez à partir de Kindu dans la province du Maniema. Comment se porte l'Assemblée provinciale du Maniema?
Oui, l'Assemblée provinciale du Maniema se porte plus ou moins bien parce qu'à un moment donné, cette assemblée a raté son décollage et elle se retrouvait dans des querelles stériles. Mais au jour d'aujourd'hui, elle commence à refaire son offensive, ça démarre. Mais ici, revenons à la visite du président des assemblées provinciales chez le premier ministre Moujitou. Bon, pour moi, c'était d'abord dû au sérieux problème qui traverse les entités décentralisées. Il y a les retards de paiement de 2 mois, par exemple ici chez nous, au Manège, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres entités. Donc le retard de 2 mois de fonds de rétrocession vers les provinces. Pourtant, à ce que je sache, lors des points de presse tenus par le gouverneur du Goumana à Linga, quand il revenait de Kisangani, la conférence du gouverneur, Je tiens à te souligner que le gouvernement va désormais signer un ordre de paiement permanent pour permettre aux gouvernements provinciaux de se servir régulièrement sans problème. Uh-huh. Mais curieusement, le fameux ordre de paiement n'est toujours pas là. Pourtant, les entités se patientent. Et aussi, vous savez, ce que le Premier ministre avait fait comme exhortation au président des assemblées. Bon, c'est un peu difficile, c'est une bonne chose. Vous savez, nos assemblées, nos dirigeants sont pratiquement des esclaves et pris en otage par leurs familles politiques respectives. Il n'y a pas tellement moyen de faire pression pour exciter l'exécutif provincial de bien travailler. À Kibou, par exemple, si on arrivait seulement à respecter la rétrocession de 40% par rapport avec la production, qu'est-ce que nous allons devenir? Je pense que ce sera la province la plus malheureuse. Les Katanga, les Bas-Congo ont eu cette chance-là de déliter les infrastructures de production. Mais chez nous ici, l'unique, j'ai connu une télévision à l'époque, la Somalie est par terre. Il y a eu des investisseurs qui sont venus pour essayer de relancer les activités, mais toujours à cause de querelles politiciennes, ça ne sera pas marché. Ce qui est fait, il sera question de gouverner, de laisser la milice du gouverner, de commenter toutes les suites, là où il y a le production de donc là, il y a les gisements de matières précieuses, comme par exemple à Lubutu, par exemple à Dikenge, pour que toutes les recettes soient canalisées vers les trésors publics. Sans cela, ça ne sera pas possible. Et vous savez que dans chaque pays minier, vous allez vous retrouver avec des recommandations. Vous allez trouver un tel qui est là avec une recommandation de du ministre, ou bien celui-ci, c'est le ministère du ministre, ou donc tout une amalgame de personnes qui sont là pour bloquer la canalisation des recettes dans les trésors publics.
Et à votre avis, vous pensez que les gouvernements, les assemblées provinciales doivent se comporter comment par rapport aux gouvernements provinciaux?
Les assemblées provinciales, surtout pour ce qui nous concerne, ils doivent chauffer le chef de l'exécutif, parce que c'est celui qui est l'exécutif de la province, c'est celui qui a la même mise sur tous les chefs de division, par exemple, la division de Nîmes, il y a aussi certaines divisions stratégiques qui donnent des recettes à la province, pour qu'il n'y ait pas de fuite d'informations, et de châtier tout. Mais c'est là qu'ils sont en train d'entretenir cette fraude à grande échelle.
Merci Roger et Bolinda. Albert Omba, on a l'impression que le gouvernement, les assemblées provinciales ne jouent pas pleinement leur rôle de contrôle sur les exécutifs, les gouvernements provinciaux.
Oui, c'est un constat aussi, un constat que d'après que toutes les provinces, c'est des assemblées un peu amorces, je ne sais pas, c'est dû à quoi. Vous constaterez que presque toutes les assemblées...
Est-ce que ce n'est pas à cause des alliances, des familles politiques?
Il y a le problème d'alliance et il y a aussi la dépendance vis-à-vis des gouvernements provinciaux. Parce que si le gouvernement dit « je vais vous acheter des jupes ou des motos » ou tout ça, alors ils sont obligés, ils ne peuvent pas aller les contrôler pendant qu'ils attendent d'acquérir des motos ou des jupes. Donc ils ont une dépendance effectivement totale vis-à-vis du gouvernement qui ne peuvent pas oser. Alors ils se taisent et puis ils ne rentrent pas à leurs bases, les différentes bases qui ont élu les députés provinciaux, ne sentent pas la présence de ces députés pour recueillir chaque fois, parce qu'ils croient seulement que c'est le problème des rétrocessions, tout ça. Non, il y a des problèmes un peu particuliers à la base, que chaque député doit aller dans sa base connaître effectivement il y a tel problème pour le soumettre au gouvernement provincial ou au gouvernement central. Mais effectivement, vous constaterez qu'ils sont là en train de se balader. Bon, que voulez-vous? C'est dommage, vraiment. On ne sent pas l'action des assemblées provinciales vis-à-vis du gouvernement provincial.
Ambroise Mamba, mais pourquoi cette interpellation du Premier ministre Adolphe Mouzito au moment où les assemblées provinciales se plaignent de deux mois d'arriérés de rétrocession?
Bon, Adolphe Mouzito, l'interpellation, c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va faire un succès par rapport à l'élaboration du budget 2010. Voilà pourquoi il interpelle pour qu'on puisse mobiliser les recettes à ces niveaux. Mais par rapport à la question que vous avez posée à Albert, de savoir de quelle manière les assemblées provinciales peuvent se comporter vis-à-vis des gouvernements provinciaux, là je déplore l'immaturité politique de nos assemblées provinciales aujourd'hui, qui sont tout le temps derrière les querelles politiciennes au lieu de passer en premier les problèmes spécifiques liés au développement des provinces, justement. J'ai été scandalisé un jour à l'Assemblée provinciale de la capitale de voir une interpellation...
Ça, vous parlez de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
De Kinshasa, effectivement. Uh-huh. De voir un député provincial de la capitale interpeller un ministre d'affaires foncières, mais lorsque des questions importantes ont été posées au ministre en question, l'auteur de l'interpellation a été énervé contre ses collègues députés. Il leur disait, par exemple, non, ça n'est pas votre affaire, ça c'est notre affaire, ça c'est notre famille, et ainsi de suite. Voyez à quel niveau nos députés provinciaux sont immatures politiquement. Donc ils ne savent pas traiter avec responsabilité les affaires de l'État, les affaires qui peuvent amener la province à se développer, justement. Voilà pourquoi ils sont en train de se balader, ils courent derrière l'argent, ils ne savent pas interpeller le gouvernement provincial de la capitale avec responsabilité pour qu'effectivement on puisse mobiliser les recettes pour pouvoir amener la province, la ville province de Kinshasa à pouvoir se développer. Voilà pourquoi on dit que tant que ces assemblées provinciales ne vont pas travailler en toute responsabilité, il n'y aura rien de mieux.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces assemblées provinciales puissent jouer pleinement leur rôle?
Albert a parlé des positions politiques des députés provinciaux, justement, qui font qu'aujourd'hui, un député provincial qui constate un fait, mais qui s'est dit, mais par rapport à la position de ma famille politique, je ne sais pas les dénoncer, ou je ne sais pas interpeller l'autre. C'est ça le problème. Si aujourd'hui, nos dirigeants politiques, au niveau des partis politiques, on autorise ces députés provinciaux de faire leur travail, je pense que ça va concourir au développement du pays.
Merci, Ambroise Mamba. Terminons notre tribune de ce soir par ces sujets sur la mise à la retraite et la révocation pour corruption de plusieurs cadres et agents des différents militaires, ministères de l'État, c'est-à-dire des fonctionnaires de l'État. Révocation et mise à la retraite des agents des carrières, des services publics de l'État dans différents ministères. Ainsi, on a décidé le chef de l'État dans 6 ordonnances rendues publiques vendredi dernier sur la radio-télévision nationale RTNC. Au terme de ces ordonnances, 80 agents de commandement sont révoqués et plus de 1200 retraités. Par ailleurs, sur proposition du ministre de la Fonction publique, Joseph Kabila nomme certains cadres des services publics de l'État au grade et fonction de secrétaire général et directeur dans différents ministères. La substance de ces ordonnances avec Askensik Biatayoro.
Au terme de ces ordonnances, 80 agents de commandement sont révoqués. Ils relèvent de 9 ministères, dont 25 aux affaires foncières, 7 aux finances, 18 issus du ministère de la Santé, 1 à l'EPSP, 1 autre à l'économie nationale et commerce, 2 aux mines, 19 ont perdu leur poste à l'urbanisme et habitat, et 4 autres devenus chômeurs au moins pour l'instant au ministère de la Justice. Selon le conseiller juridique du chef de l'État qui a fait lecture de ces ordonnances à la télévision nationale, la décision de révoquer tous ces agents est intervenue après avis du conseil de discipline du ministère de la Fonction publique. Quant aux retraités, ils sont au nombre de 1212, dont 493 chefs de bureau, 417 attachés de bureau, 161 chefs de bureau, 115 directeurs et 26 secrétaires généraux. Ces retraités qui devront bénéficier des droits et avantages de fin de carrière sont sortis pour la plupart du ministère des Affaires foncières et de l'urbanisme et habitat. Dans l'ordonnance, on accuse les personnes révoquées de commettre soit des fautes constitutives au manquement grave pour les unes ou les autres, soit d'écoper au moins une fois des peines de servitude pénale supérieures à 3 mois.
Le ministre de la Fonction publique a annoncé la nouvelle mise en place dans l'administration publique pour bientôt. C'était au cours d'une conférence de presse tenue hier jeudi dans son cabinet de travail à Kinshasa. Michel Botoro est revenu sur les motivations de révocation et de la mise à la retraite au sein de l'administration publique ainsi que le train des mesures pour indemniser les retraités. Parmi les mesures d'encadrement qui accompagnent les retraités, le ministre parle des allocations des fins de carrière sur lesquelles le gouvernement, dit-il, travaille déjà. Voilà, à Ambroise Mamba, après la magistrature, c'est la fonction publique maintenant. Comment peut-on comprendre cette nouvelle décision du chef de l'État?
Bon, en fait, c'est d'abord quelque chose à louer par rapport au fait que le chef de l'État avait annoncé de pouvoir frapper pour lutter effectivement contre la corruption, l'impunité. Je pense que c'est quelque chose à louer, mais lorsque on trouve quelque part qu'il y a un problème, c'est dans l'analyse de ces dossiers, par exemple, des mises en retrait, des révocations, des nominations, ainsi de suite. Au niveau de la magistrature, on a déploré le fait qu'il y avait vite des procédures, les gens révoqués n'étaient pas entendus par la commission de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Au niveau de la fonction publique, on estime par ailleurs qu'on a cherché à bouger les rangs pour créer des trous et donner du travail aux autres, et notamment lorsqu'on estime qu'il y a des gens qui ont 59 ans, qui ont été révoqués, mais envoyés à la retraite plutôt, mais il y a ceux qui ont 68 ans qu'on embauche. Voilà, ce sont quand même des actes qui prouvent à suffisance qu'on a cherché à créer des trous pour donner du travail aux autres. Mais si on a relevé les fautes, des concussions pour les fonctionnaires de l'État, des corruptions, ainsi de suite, moi je voudrais que la procédure soit respectée. Par exemple, entendre ces gens, qu'ils soient effectivement entendus, qu'il y ait des verdicts rendus au terme de toutes ces mesures, comme ça on va faire comprendre à la population qu'effectivement ils sont sanctionnés par rapport à ça. Mais le problème se pose au niveau de la nomination. La révocation en fait n'a pas de problème à mon avis, parce qu'effectivement c'est une manière de laver au niveau de la fonction publique, parce qu'il y avait problème, il y avait des personnes, des fonctionnaires de l'État qui avaient des dossiers pour les exécuter, ils exigeaient des pots de vin, ainsi de suite, c'est bon. Mais la nomination, est-ce qu'elle a tenu compte de l'âge des gens qui viennent au sein de la fonction publique, ou tout simplement on l'a fait parce que c'est un fait d'annonce pour annoncer qu'effectivement nous voici, nous sommes en train de venir d'en finir avec la corruption.
Albert Roma, journaliste à Tropicana FM, mais chez nous on a aussi l'impression qu'il y a une certaine réticence à aller à la retraite. Vous voyez un monsieur de 70 ans, 75 ans qui continue à aller travailler.
Oui, ce n'est pas une réticence, ça fait plus de 20 ans. Là, on n'a jamais envoyé les gens de l'administration publique en retraite. Et pendant ces 20 ans, presque un cinquième de ces gens sont morts. Et ces gens-là sont partis comme ça. Ils n'ont jamais eu d'indemnité de sortie ou d'allocation spéciale pour la fin de carrière. Alors, si aujourd'hui le chef de l'État décide de mettre en retraite ces gens, d'accord, c'est une bonne initiative. Mais ceux qui ont été mis en retraite il y a 20 ans, 25 ans, soit encore, ils ne sont jamais payés, ils n'ont jamais eu l'indemnité de sortie. Il y a une centaine de secrétaires généraux qui attendent encore leur indemnité de sortie jusqu'à aujourd'hui. Alors, le problème, c'est lequel?
Rapidement, Albert.
Oui, le problème, c'est de mettre les gens en retraite et les payer. Je vous dis ici, par exemple, le 1200 qu'on a mis en retraite. Et on va les payer sur quelle base? Parce qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de barème salarial.
Mais le gouvernement travaille sur ça, les gens?
Non, le gouvernement travaille sur quelle base? Parce que ici, aujourd'hui, tout le monde est payé sur la base de 35 000 francs. Alors, on ne calcule pas ce que gagne, parce que la plupart des fonctionnaires gagnent des primes. Mais la base, c'est 35 000. Que ce soit un professeur d'université, un médecin, c'est 35 000 à 60 000. Et vous prenez 35 000, vous multipliez par 26 mois, ça à peu près 910 000 francs congolais, ce qui équivaut à peu près à 1 000 $. Est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un à retraite avec 1 000 $? Non. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on fasse des calculs bien précis pour que celui qui va à retraite puisse bénéficier d'un montant qui lui permettait de finir ses jours tranquillement, au lieu de l'envoyer mourir encore assez tôt.
Merci Albert Roumba. Roger Bolinda, en une minute, quel peut être l'impact de cette décision du chef de l'État sur la marche de la fonction publique? Nous sommes vraiment à la fin de l'émission, en une minute.
Oui, je m'arrête d'abord à féliciter le chef de l'État pour la mesure que j'ai tout fait sanitaire, mais je veux vous dire ceci, que le président n'a fait que gratter la crête de l'Isidore qui se cache sous l'océan. Mais il faut entrer à profondeur pour dynamiter la plante qui se trouverait encore sous les eaux. C'est très dangereux. Parce que 80 personnes, agents révoqués, donc, ça représente quoi dans l'ensemble de notre pays? Moi, je pense qu'on doit entrer à profondeur, parce que ici, à Kindou, les gens se sont posé la question, est-ce qu'on va encore revoir cette décision pour que les provinces soient aussi impliquées, concernées dans cette décision du chef de l'État? Parce qu'il arrive que la mesure se limite seulement à ce niveau-là et les malfrats qui se trouveraient à l'intérieur vont rester éteints.
Merci Roger et Bolinda, c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Merci à Albert Omba et Ambroise Mamba d'avoir répondu à notre invitation. William Lungamba était à la technique. L'émission a été réalisée par Jean-Claude Tumbakamanga. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Jean-Claude Tumbakamanga, Alain Kung et Samuel Kacha, sur la coordination de Martin Sebujangwe. En leur nom, Kéline Couté vous remercie et vous souhaite un bon week-end en compagnie de programmes de Radio Okapi. Okapi, okapi.